Annette et le criminel, chapitre 15. Monsieur de Montiver devait, avant de partir pour une mission, marier Annette avec Argot. Cette cérémonie était indiquée pour 5 heures du matin, parce que monsieur, madame Gérard et les nouveaux mariés devaient partir sur le champ pour Durental, où Vernier était déjà préparé le château et le meublé de manière à ce qu'il fût digne d'Annette. La nuit de cette union était arrivée. Annette, simplement mise, attendait monsieur de Durental. Argot vint, il était en noir, ce qui frappa mademoiselle Gérard, car elle était tout en blanc, et ces deux habillements formaient le plus grand contraste. Annette tressaillit et ajouta cet augure à tous les avertissements que le hasard lui avait donnés. Mais ce n'était rien encore. Il y avait ce jour-là une fête particulière à l'église où ils allaient se marier. C'était la dédicace de cette église, et cette fête fut cause du plus grand saisissement qu'Annette put éprouver. Elle avait surmonté toutes les craintes. L'aspect d'Argot l'avait rendue à tout ce que l'amour a de plus tendre et de plus voluptueux, et ses sentiments avaient mille fois plus de charme pour une vierge aussi pure qu'elle que pour tout autre, car en touchant au bonheur, elle voyait la terre et les cieux lui sourire, et plus elle s'était interdit de tels sentiments d'amour, plus elle devait éprouver de charme à les savourer. Aussi, en ce moment de joie, elle brillait de toutes les beautés terrestres, et jamais elle n'avait eu plus de sentiments dans son cœur que quand, en descendant de voiture devant l'église, Argot lui donna sa main, qu'elle sentit trembler dans la sienne. Elle lui jeta un regard dans lequel toutes les harmonies de la terre se réunissaient. C'était la sainteté, la tendresse, l'amour, le respect, la joie, la beauté, la pudeur et la chaste confiance d'une vierge, confondues dans une seule expression. Son haleine, sa respiration même, sa contenance, tout parlait et imprimait un sentiment de vénération en faveur de cette si séduisante créature. S'il y avait eu une foule, elle se serait agenouillée devant une telle fiancée. Elle s'avança en s'appuyant sur le bras d'Argot avec une complaisance qui indiquait toutes les pensées de son âme. Pour la première fois de sa vie, elle allait entrer dans une église avec deux sentiments, celui d'une religion profonde et celui du plus tendre amour. Elle entra, leva les yeux, et une si grande terreur vint l'épouvanter qu'elle resta froide et pâle entre les bras de monsieur Maxendy. En effet, qu'on juge de l'impression que devait produire sur la superstitieuse Annette le tableau qui s'offrait à ses regards, et ces paroles qu'une voix sinistre avait prononcées. « De profundis clamavi anima mea », etc. L'église était toute tendue en noir, et devant Annette était une bière autour de laquelle brillaient les pâles flambeaux du convoi. Une tête de mort, des larmes, des os croisés, tels étaient les objets qu'elle aperçut, et autour du cercueil des prêtres, des parents pleuraient en continuant un chant lamentable. Il était encore nuit. L'église, sombre, ensevelie tout entière sous ce drap, semblait plus silencieuse, et les fatales paroles avaient retenti dans le cœur d'Annette avec toute leur signification. Qu'on se figure, devant cet appareil, une jeune mariée, brillante de beauté, qui vient échouer sur cette tombe avec sa joie et son amour. Toutes les fiancées, dans cette fatale position, ne trembleraient-elles pas? Mais combien mademoiselle Gérard dut-elle être plus effrayée, elle qui trouvait un présage dans les moindres choses? Argot l'avait entraînée entre ses bras et portée dans la sacristie. Monsieur Gérard y était déjà et se plaignait hautement de l'inconvenance d'une pareille cérémonie. « Oui, monsieur, disait-il au sacristain et au vicaire, lorsque l'on a un mariage à célébrer, concurremment avec un enterrement, on fait prévenir du moins les personnes, et elles retardent, si elles le jugent convenable, le moment de leur cérémonie. « Monsieur, répondit le vicaire, l'urgence est une raison suffisante. On ne pouvait pas attendre une heure de plus pour l'enterrement de la personne décédée, à cause du genre de maladie, et il nous a été recommandé même de le faire au matin. Mais vous pouviez me prévenir.
Monsieur, dit le vicaire, j'avais ordonné que l'on vous fît entrer par une autre porte, et c'est une erreur du sacristain.
Au surplus, le mal est fait, dit monsieur Gérard, en voyant Argot entrer avec sa fille. La chevelure abondante d'Annette était détachée et répandait ses boucles sur la poitrine du pirate. Elle saisissait son mari avec une force rendue naïve par l'abandon qui régnait dans sa pose. Ses lèvres étaient décolorées et son haleine d'ambroisie s'échappait par intervalles inégaux, de manière qu'on pouvait en quelque sorte la voir.
« Annette, mon Annette !» disait Argot au désespoir. « Reviens à toi, reviens! Toutes ces figures horribles ont disparu. Ne soyez plus effrayée. Relevez votre tête.
Non, non, qu'elle reste sur mon sein. Voyez, c'est moi. Écoutez, ce ne sont plus de lugubres accents. »
Annette ouvrit les yeux, mais elle n'avait pas entendu. Elle parla, mais comme un être en proie à une aliénation terrible.
« Quel présage! Nous mourrons!
Oui, mais nous mourrons ensemble.
Il y a de la mort dans notre union.
Quand je l'ai vu, lui, il était sur un tombeau. Quand je l'ai revu, j'étais sur un sépulcre, et ce sera mon époux de gloire. »
Oh ! ajouta-t-elle, mue par la volonté de rendre les images terribles qui l'avaient obsédée un temps, et qui se reproduisaient en ce moment dans son âme.
« Voyez-vous, il a une ligne sur le cou. Cachez-la. »
« Mon unique amour, disait Argot, écoutez-moi, rien ne nous présage des malheurs, car en ce moment nous sommes unis comme deux amants, et ta tête est sur mon sein, tes doigts chéris se sont mariés aux miens. Ah, c'est le plus pur bonheur !»«
C'est lui !»
s'écria Annette en ce moment. Alors elle releva doucement sa tête, ses yeux devinrent sereins, elle reprit peu à peu sa connaissance, et sa pure innocence la faisant agir comme par instinct, elle sourit, se dégagea par un mouvement rempli de charme d'entre les bras de monsieur de Maxandy, elle tressaillit, une larme roula dans ses yeux, et elle vint se précipiter dans les bras de sa mère. À cet instant, monsieur de Montivert, qui arrivait et que l'on avait instruit de l'événement, s'approcha d'Annette et lui dit, de sa voix grave, « Ma fille, vous n'êtes pas chrétienne en vous abandonnant à de pareilles terreurs. Dieu seul conduit les événements de la vie, et rien n'en peut détourner le cours. » À cette voix grave et imposante, Annette sentit le calme renaître dans son cœur, et la nuit ne servit plus qu'à jeter dans son âme toute la piété qu'exige cette cérémonie imposante, qui se trouve seule dans la vie humaine comme un monument auquel se rattachent tous les événements du reste de l'existence. Certes, un des tableaux les plus poétiques que puisse présenter notre religion, après celui d'un prêtre consolant la mort, est celui qu'offraient Annette et son époux, réunis devant un simple autel, dont les cierges rougissaient faiblement la nef par leur clarté tremblante. On entendait à la porte de l'église les dernières prières des morts, et le bruit du convoi qui sortait. Un prêtre vénérable avait devant lui une jeune fille, l'amour de la nature, et un homme, au regard inquiet, un grand criminel, pardonné par la bonté céleste, et cet être semblait douter de son bonheur. Frappé de ce spectacle, monsieur de Montivert, avant d'unir la Vierge au criminel, leur dit d'une voix recueillie, « Une seule âme. Une seule chair, c'est ainsi que l'Église vous voit. Toute individualité cesse désormais entre vous. Et dans ces paroles, mes enfants, vous trouverez un traité tout entier sur les obligations du mariage. Vous n'avez qu'à les commenter et suivre tout ce que cette phrase renferme d'utiles préceptes. Désormais, tout sera donc commun entre vous. J'imagine que vous n'êtes venu recevoir cette bénédiction nuptiale, le plus grand lien de la terre,
qu'après vous être assuré que la douce conformité de vos goûts ne fera pas une chaîne de ce tendre lien, ou que la disparité de vos qualités aimables ne servira qu'à rendre le mariage un état de grâce et de bonheur. Que cette parole que je vais prononcer vous soit un lien d'amour, qu'il soit de fleurs, qu'elle renaisse à chaque pas. Et si le malheur vous accablait, souvenez-vous de ce discours. Une seule âme, une seule chair. Car je vous unis. Conjungo, etc. Ce mot prononcé, Annette était perdue, et son terrible destin ne devait plus tarder beaucoup à s'accomplir. Nous pourrions nous écrier comme l'éloquent prédicateur « La terreur est semée !» Mais gardons-nous bien d'anticiper sur ces funestes événements. Toutes les cérémonies de la terre étaient terminées, Argo et Annette étaient à jamais unis, et la même voiture les entraînait vers Durantal. Jamais il ne fut au monde un plus gracieux voyage. Désormais, Annette pouvait, sans crime, déployer toute sa tendresse pour l'être qu'elle aimait, pour le seul être qu'elle dut aimer, pour celui qui fait tressaillir toutes les cordes de son cœur. Argo, chose incroyable, avait acquis une foule de sentiments que la nature dépose dans toutes les âmes énergiques et qu'elles peuvent ne pas développer, mais qui n'en existent pas moins. La plus précieuse de ces qualités, et celle qu'on aurait attendue le moins d'Argo, était un respect et une délicatesse rares. Loin de regarder Annette comme une créature que les lois lui donnaient comme une espèce de propriété animale, il se défit de tous ses droits et dit à Annette « Ma chère et unique adorée, conserve, je t'en prie, la noble liberté de toi-même. Restons amants et que jamais le devoir ne soit une autorité. Suivons l'impulsion de nos cœurs. » « Oui, » dit Annette, et jetant ses bras avec grâce autour du cou de son époux, elle déposa sur son front un chaste baiser, en ajoutant « Je veux que ce soit moi qui vous ai fait le premier don d'amour. » Argo la regarda avec attendrissement, et se penchant sur ses lèvres de rose, il ajouta la plus grande volupté terrestre en confondant son âme dans l'âme d'Annette. « Ah ! » s'écria-t-il. « Je deviens pur, je me lave de toute souillure en mêlant ainsi mon souffle au tien. J'espère mon pardon du ciel, si je continue longtemps une telle vie de bonheur. Mon amour même sera une longue prière. » Annette, attendrie, s'écria avec une espèce de volupté. « Je savais bien que je trouverais tout dans une âme annoncée par des traits aussi brillants. » Et, en achevant ces paroles, la Vierge Sainte caressait légèrement le cou, les cheveux, la tête entière de cet être, qui, dès lors, ne devait plus respirer qu'amour, religion et la résignation la plus sublime. Avec quelle joie et quelle ivresse ils revirent cette route, dont chaque borne était un monument pour leur cœur. Que l'on voit Annette heureuse de pouvoir se livrer, sous les auspices et au regard du ciel, à toute l'exaltation de son âme, donner carrière à sa force aimante envers la créature, la même activité, la même expansion qu'à son amour pour les cieux, ne pas craindre de rendre ces deux sentiments rivaux. Voyez-la dans ce moment, car c'était le plus beau moment de bonheur qu'elle put obtenir dans son apparition ici-bas. Regardez, elle est le plus souvent la tête appuyée gracieusement sur l'épaule de son époux. Non pas de gloire, mais d'amour. Elle lui sourit, et ce sourire passe à travers des dents rivales des perles de l'Orient. Une haleine d'ambroisie, pure comme son âme, semble se jouer sur des lèvres amoureusement candides. Ses mains, qui jusqu'alors n'ont tenu que la blanche dentelle, et n'ont caressé, flatté, que son père ou sa mère bien-aimée, ses mains s'entrelacent avec volupté aux mains terribles qui, jadis, ont remué les canons, manié la hache et lancé la mort. Pour un homme qui a connu l'argot de la Daphnie, le spectacle de ses mains entrelacées est un mélange de terreur et de grâce. Les yeux d'Annette sont brillants, transparents comme ce qu'un peintre a donné à Marie Stuart chantant avec Rizzio. Et ses yeux ravissants montrent à Argo la route. Car en ce moment, la voiture est à l'endroit où ce dernier manque à périr et où Mademoiselle Gérard vint lui apparaître comme un ange qui descendait des cieux. Quant à Monsieur de Durantal, il semble toujours dire à chaque instant « Quel droit ai-je donc à tant de bonheur ?» Ils approchaient de Valence, qu'ils ne devaient que traverser, car il faisait nuit, le temps était à la pluie et des nuages très noirs sillonnaient le ciel. Annette proposa à Monsieur de Durantal de s'arrêter à Valence, mais il lui objecta que pour 2 heures de plus qu'ils auraient à rester en voyage, il ferait mieux d'atteindre le château. C'était une chose si indifférente qu'Annette n'insista seulement pas et l'on continua de voyager. Ici, une description succincte de la position du château de Durantal est nécessaire pour 1000 raisons. Elle sera aussi abrégée que faire se pourra. Le château de Durantal est situé sur une hauteur, autant dire même une montagne. Les murs du parc se trouvent en cendre la montagne entière, et l'habitation domaniale, située à mi-côte, sépare en 2 parties bien égales la largeur de cette côte, à gauche de laquelle est le village de Durantal. La grande route de Valence à F vient aboutir au bas du parc, précisément en face du château. Mais là, la route tourne à droite, au lieu de passer dans le village, de manière que cette montagne, au milieu de laquelle le château s'élevait, était flanquée à gauche par le bourg et à droite par la grande route. Il s'ensuivait de là que les anciens propriétaires de Durantal avaient 2 entrées différentes. D'abord cette avenue qui conduisait au château par la grande route à droite, laquelle avenue était pavée et donnée sur la principale façade du château. Mais par la suite, on avait, à travers le parc, ouvert une autre avenue qui conduisait, d'une autre façade, au village et à l'église de Durantal. Argo, en achetant cette propriété, avait regardé ces 2 avenues comme trop longues pour arriver à son château, et, ayant ordonné de jeter des ponts sur les rivières factices du parc, on dut percer une avenue qui conduisit à travers la montagne, droit à la route. Il devait y avoir une belle grille, car comme il comptait habiter la façade qui avait pour point de vue les plaines de Valence et la grande route, ce chemin montrait à tous les passants le château de Durantal dans toute sa splendeur. Alors on voit qu'il y avait 3 chemins différents pour arriver au château d'Argo, car Vernier venait de faire terminer l'avenue qui y menait en droite ligne, et qui semblait être la continuation de la grande route. Ordinairement, Argo désignait au postillon le chemin par lequel il voulait être conduit, et il était déjà arrivé 2 fois qu'ayant affaire dans le village, il se fut fait mener par Durantal. Le hasard voulut que le postillon, qui conduisait Argo en ce moment, fut celui qui, les 2 fois, l'avait mené par le village. Il devait donc naturellement suivre la route précédemment indiquée. Et Argo, tout entier au charme de voyager avec Annette, ne fit aucune attention à une chose aussi ordinaire. Mais le chemin du village n'était pas le même au printemps qu'en été, et surtout lorsque pendant 2 heures, la plus furieuse pluie qui fût tombée de mémoire d'homme avait déployé sa rage sur la contrée. Il y avait des ornières d'une étonnante profondeur, et malgré toute sa science, le postillon douta de pouvoir arriver à Durantal. Aux premières maisons du village, le postillon fut contraint de s'arrêter, car il n'était pas possible d'aller plus loin. La voiture de Monsieur de Durantal courait risque de se casser, et le postillon tâcha de gagner le pavé qui se trouvait devant une maison qui avait assez d'apparence. Là, il se dégagea de dessus son porteur, nagea dans un océan de boue et, après 1000 jurons, attrapa la chaîne d'une sonnette et sonna de toutes ses forces.
« Qui va là ?» demanda une vieille femme à la voix cassée.
« C'est un postillon embourbé qui voudrait... »«
Un postillon, Sainte Vierge !»
s'écria la vieille en interrompant le discours du claque-fouet. « Jamais chaise de poste n'a passé par le village de Durental. C'est tout au plus si en 20 ans j'ai vu passer 3 fois la voiture du Seigneur. Vous êtes un maraud !»«
Vieille folle, ouvrez donc, c'est monsieur de Durental !»
Bah, la croisée était fermée et la vieille n'entendait plus.
« Ah, je vais te faire ouvrir !» s'écria le postillon.
Et il se mit à sonner comme s'il s'agissait de l'enterrement d'un pape.
« Postillon, dit Argot, essayez plutôt de regagner la route neuve.
Eh, monsieur le marquis, l'eau entre dans votre voiture. Il vaut mieux envoyer chercher du monde au château, et à travers le parc, on viendra vous chercher ici quand la pluie aura cessé. »
Et le postillon de sonner toujours.
On entendit à l'intérieur un colloque de 6 ou 7 voix de femmes, et l'on vit de la lumière aller et venir. Enfin l'on ouvrit. Le postillon montra la voiture, et à cet aspect, l'on voulut bien recevoir Annette et monsieur de Durental. Mais aussitôt que le postillon les eut nommés, il y eut un émoi général et un empressement étonnant. La vieille fut chercher un parapluie et un vieux tapis, et les 2 époux entrèrent dans cette maison à 10h30 du soir. Le postillon détela les chevaux, abrita la voiture, et s'en retourna avec 1000 peines.
Vous, lecteur, si jusqu'ici vous m'avez vu conduire mon char à peu près comme le postillon conduisait nos héros, espérez que, désormais, nous allons rouler avec trop de rapidité, peut-être, quand vous apercevrez le but.
Tome 3e, chapitre 16. La maison dans laquelle venait d'entrer monsieur de Durental et sa femme appartenait à une vieille demoiselle nommée mademoiselle Sarah Sophie. Cette demoiselle avait tenu à Valence, pendant fort longtemps, une maison de commerce qu'elle venait de vendre à monsieur et madame Bouvier, les cousins d'Annette. Mademoiselle Sophie était la plus riche de tout le village de Durental, et de tout temps, sa maison avait été le rendez-vous des habitants les plus aisés. Elle était comme la reine de ce petit monde, et tant qu'au château les propriétaires furent absents, mademoiselle Sophie pouvait passer pour la première du village. Or, dans tous les bourgs, villes, capitales, villages, hameaux, de tout royaume européen, asiatique et africain, partout enfin où se trouvent agglomérés 7 animaux qu'on décore du nom générique d'homme, il se trouve aussi des intérêts qui se croisent, des amours propres qui se froissent, des jalousies qui croissent, et la reine du monde, l'opinion, y vient sur le champ dresser ses tréteaux, et, comme un charlatan, parle sans cesse à la foule. Or, la maison de mademoiselle Sophie était l'endroit où l'opinion régnait. Elle la dirigeait, la modifiait, et cela avait eu lieu dans l'origine par un motif qui n'était plus connu que des vieilles têtes à perruques de l'endroit. Et ceux qui n'avaient pas l'honneur d'aller chez mademoiselle Sophie répétaient encore ces bruits dans ce qu'elle appelait leur conventicule. Nous allons les traduire fidèlement au lecteur. Cette société secondaire de la petite bourgeoisie de Durental tenait son bureau chez l'épicière du village. Or, voyez-vous madame Jacotta au coin de son feu, dans son arrière-boutique, entourée de 7 ou 8 habitants, fermiers, tailleurs, boulangers, tous membres de la petite propriété et les industriels du canton.
« Oui, répétait madame Jacotta. Ma mère m'a dit que mademoiselle Sophie avait été jolie, mais très jolie, à 18 ans.
Dah, qu'elle avait été amoureuse, mais comme on l'était dans l'ancien régime, bien plus qu'aujourd'hui.
Elle était donc amoureuse et aimée d'un jeune homme, le fils d'un président à Mortier du Parlement. Mais les parents de l'amoureux n'avaient pas voulu les marier,
et l'on m'a dit que c'est ce jeune homme qui lui a acheté sa propriété à Durantal. Elle y vivait dans la retraite, et le jeune homme venait la voir clandestinement la nuit. On dit que c'est le président actuel du tribunal à Valence, et qu'il a tant aimé Mademoiselle Sophie qu'il n'a jamais voulu se marier. Le fait est qu'à Valence, elle allait souvent chez lui, et lui chez elle, de manière que cette vieille Mademoiselle Sophie, qui fait tant sa dévote et sa vertueuse, n'en a pas moins eu un enfant de lui. « Un enfant ? » s'écriait-on. « Oui, un enfant, et elle n'a jamais osé le garder avec elle. On ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est un crime, cela. Une mère doit, quelque chose qu'on pense d'elle, ne jamais se séparer de son enfant. Elle ne parle jamais que de vertu. Elle a fait chasser la petite Jeanneton parce qu'elle avait fait un enfant avec le dernier garde-chasse, ou avec un autre, n'importe. C'est le garde-chasse que l'on accuse. Elle aurait dû plutôt la secourir. Mais voilà, on condamne dans les autres ce qu'on a fait soi-même. » Ici, l'épicière se croisa les bras. « Mademoiselle Sophie, reprit-elle, est riche, alors on va la voir. On fait comme si l'on ne savait rien. Et elle est reçue au château, c'est-à-dire elle l'était par les anciens seigneurs. Mais le sera-t-elle par ceci ? C'est une question. » « Qu'est devenu Jeanneton ? » demandait un des auditeurs. « La pauvre petite, reprit l'épicière infatigable, voilà ce qui lui est arrivé. Le grand sec, qui est l'ami du nouveau propriétaire, l'a établie à 10 lieues d'ici, je ne sais où. Elle a une auberge, une ferme, une habitation, je ne sais lequel, et le garde-chasse a un emploi qu'il lui a fait obtenir par le préfet, son ami. Aussi l'on a grogné contre celui-là, qui a l'air d'un bien brave homme. Il ne s'en fait pas à croire. Il vient m'acheter du tabac à fumer quand il lui en manque et qu'il est hors du château, car il en a sa provision. Si j'étais en ville, j'achèterais bien ce tabac-là au poids de l'or, car c'est du tabac des îles, et je dis qu'il est fameux, car mon homme en a senti le fumer et il s'y connaît. Mais pour les gens de Durantal, le nôtre est assez bon. Les paysans ne sont pas au monde pour avoir leurs aises. Au surplus, le nouveau propriétaire fait travailler. C'est un brave homme. Ça a autant d'écus que j'ai de grains de café. » Ce fragment de la conversation de l'épicière instruit suffisamment le lecteur des antécédents de la vie de Mademoiselle Sophie. Antécédents qu'elle cachait avec un soin curieux et sous un masque de dévotion, qui, peut-être, était véritable et sincère. Maintenant, avant d'introduire nos deux mariés, il n'est pas hors de propos de faire connaître les personnages qui se trouvaient alors chez Mademoiselle Sophie, car elles doivent avoir une influence sourde et cachée sur leur destinée. Le curé y venait souvent, mais comme son rôle est très court dans cette histoire, on peut se contenter de dire qu'au coin de la cheminée était un vieillard de 50 ans, habillé, fait et parlant comme tous les curés de village. Il n'est là que pour ordre. Il écoutait avec patience, discourait quand il pouvait, et depuis peu le pouvait rarement, à cause de l'arrivée récente d'un personnage qui ne sera pas inconnu à ceux qui ont pu lire « Le vicaire des Ardennes » pendant le peu de temps qu'il a été en circulation. Ce personnage était la femme du maire. Elle pouvait avoir 36 à 40 ans. Mais un léger embonpoint lui permettait d'en escroquer une petite partie. Elle était mariée depuis peu et venait... d'où ? C'était un secret qu'elle avait très bien su garder, malgré son amour pour les confidences, l'art de phraser qu'elle possédait mieux que maint député loquace, et sa tendance à tout apprendre et tout savoir. Elle était toujours bien mise, mais ses manières n'annonçaient pas une extraction bien franche, et quoique toujours occupée à bien parler, à s'étudier, à affecter un bon ton, souvent une phrase, un proverbe commun, la faisait ressembler à l'âne qui montre le bout de l'oreille sous la peau du lion. Il y a 6 mois qu'elle était arrivée à Durantal, où son mari était arrivé un beau jour, muni d'une belle nomination,
à la place vacante de juge de paix. Ce que l'on avait pu savoir de cette inconnue, c'est qu'elle devait toute sa fortune à un vieillard respectable, un ecclésiastique, qui venait de lui laisser toute sa fortune par son testament. Et souvent, elle parlait du respectable monsieur Gosse en termes d'héritier comptant. À ce dernier nom, l'on doit reconnaître Marguerite. Note. Dans le Vicaire des Ardennes, Marguerite était la servante d'un curé septuagénaire qui avait pour manie de citer des proverbes. Dans ce roman, elle était dépeinte comme une femme excessivement curieuse, encore plus bavarde, et elle avait manqué plusieurs fois épouser le maître d'école, dont il va être question dans la note suivante. Fin de note. Mais comment Marguerite a-t-elle pu subitement franchir l'espace qui se trouve entre une cuisine et un salon? On va l'apprendre. Marguerite était mariée. Mais à qui? À monsieur de Sec, juge de paix. De Sec ressemble bien à Le Sec. Note. Marcus Tullius Le Sec était dans le Vicaire des Ardennes le maître d'école du village d'Aunay-le-Vicomte, aimant singulièrement l'ironie, méchant envers ses supérieurs, quoiqu'il rampât devant eux, fanfaron et souple à la fois. Pauvre et attendant tout le monde, il aurait préféré une plaisanterie à la richesse. Insouciant, mais aimant à brouiller tout le monde. Il arriva qu'Argo fut pris à Aunay et reconnu comme pirate, autant que ma mémoire me permet se souvenir. Et dans cette occurrence, Le Sec fut nommé pour veiller sur le prisonnier. Alors, Argo offrant 100 000 francs pour sa délivrance, Le Sec délivrait le pirate. Il est nécessaire de faire connaître ces circonstances, puisqu'elles l'auraient été si le vicaire des Ardennes n'avait pas été supprimé. Or, comme cette suite était préparée avant la saisie du vicaire, je n'ai pas pu la publier sans y faire reparaître des personnages du vicaire. Mais ce sont de ceux qui n'ont attiré, je crois, sur l'ouvrage, aucun blâme. Fin de note. Nous allons donc encore rendre raison de cette nouvelle métamorphose du maître d'école qui jouait jadis un si grand rôle à Aunay-le-Comte. Lorsque Marcus Tullius Le Sec fut possesseur des 100 000 francs que lui donna Argo pour le laisser échapper de la prison d'Aunay-le-Vicomte, où on l'avait arrêté par hasard, Le Sec se trouva trop grand seigneur pour rester maître d'école à Aunay-le-Vicomte. Il vint donc à Paris, et son premier soin fut de redemander ses anciens prénoms de Jean-Baptiste, dont il s'était dépouillé pendant la Révolution, pour prendre les glorieux noms de Cicéron, son auteur favori, qu'il ne comprit cependant jamais. Alors, en examinant avec soin son extrait de baptême, dans l'original, il reconnut que l'aile était formée de telle manière qu'il pouvait tardiment passer pour un D. On n'oserait pas affirmer que l'astucieux maître d'école n'est pas un peu aidé à la lettre. Quoi qu'il en soit, il prétendit qu'il était noble, que les Sec étaient très connus, et il alla dans le monde sous le nom de Monsieur de Sec. La protection du seigneur donné lui fit obtenir la première justice de paix qui viendrait à vaquer. Mais cette justice de paix, qui devait être le premier bâton de l'échelle pour l'audacieux Le Sec, lui fut enlevée au bout de 15 jours, par suite d'un changement de ministère. Alors, il eut soin de tellement crier que pour le dédommager de cette disgrâce et de son voyage, on le nomma maire de Durantal. Pendant l'intervalle qu'il y eut entre sa nomination et ses sollicitations, qui furent longtemps infructueuses, il revint à Aunay. Le curé était mort, Marguerite héritait au moyen du fameux testament qu'elle avait si longtemps poursuivi, et elle se trouvait riche de 60 à 80 000 francs. Le Sec, ou plutôt Monsieur de Sec, redevint amoureux fou de l'aimable gouvernante, et ils réunirent ainsi une fortune de près de 200 000 francs.
Alors, quand monsieur de Sègue fut destitué de sa place de juge de paix à Durental et promu à la place distinguée de maire, il trouva très honorable pour lui de rester dans un pays où l'on vivait à si bon marché et où il pourrait jouer un rôle, car il remplissait les fonctions de procureur du roi auprès du tribunal de paix, les jours où l'audience était consacrée aux affaires de police, et il voyait dans l'avenir que M. de Sègue, inconnu comme maître d'école, cachant sa vie passée avec soin, maire de Durental et riche de 10 000 livres de rente, serait à Valence et dans le pays une espèce de personnage, et qui sait si les circonstances ne le pousseraient pas plus haut. Voilà le récit des événements qui amenèrent le Sègue dans le même pays qu'habitait un homme que, 2 ans avant, il avait tenu en prison et qui lui avait fait sa fortune. Madame de Sègue était donc dans le salon de Mademoiselle Sophie. On voit d'ici qu'elle était la personne la plus haute en dignité et que, passant pour noble, elle tenait le haut bout. Or, l'on doit deviner l'air, l'importance qu'elle affectait. Elle roulait ses yeux avec mignardise, tâchait de parler bas et par instant élevait fortement la voix par suite de son ancienne habitude. Enfin, souvent, M. de Sègue la pinçait quand elle disait un colidor, une casserole, avant-hier, et une multitude de paroles semblables. Le sévère M. de Sègue pouvait bien corriger les mots, mais les gestes, ces autres mots d'un langage presque aussi important, c'était bien la chose impossible. Avec Madame de Sègue, ou Marguerite, comme on voudra, était le receveur des contributions et sa femme, deux personnages assez indifférents, mais aimant la médisance et les caquets. Un propriétaire de Durental et sa femme tâchaient de mettre à fin, avec deux anciens marchands retirés, un boston dont on devait parler le lendemain, absolument comme dans la petite ville de Picard. Ce propriétaire était un véritable hobereau, chicaneur, processif, tenant à sa noblesse qui datait de 50 ans, se piquait d'une parole, d'une démarche, enfin, en ajoutant qu'il était exigeant, impérieux et bavard, l'on aura l'exact portrait de M. de Rabon. Mais au milieu de ce monde, et à côté de Madame de Sègue, était Mademoiselle Sophie. Elle pouvait avoir 60 à 70 ans. Son visage était très bien conservé, mais elle se coiffait de manière à se vieillir. En effet, elle portait toujours un bonnet en baigneuse de soie noire et garni de dentelle noire. Ses cheveux étaient poudrés et crêpés comme à l'ancienne mode. Ses yeux gardaient une vivacité et une expression difficiles à rendre. On voyait qu'elle avait dû être extrêmement belle, mais bonne en aucune façon. Seulement, on devinait qu'elle pouvait l'avoir été pour un seul être. Un grand caractère était écrit sur sa figure. Il y régnait de l'orgueil, de l'envie, et surtout une profonde dissimulation. Néanmoins, à travers l'expression de ses diverses passions, apparaissait une inquiétude vague qui annonçait comme un remords, et un observateur aurait reconnu que cette fille cherchait à racheter quelques fautes envers la nature par la stricte exécution des petites et minutieuses pratiques de la religion. Cette figure contrastait avec celle de Marguerite, qui n'avait aucune gêne, aucune dissimulation. Il sera très utile, avant de reprendre M. Durental et Annette où nous les avons laissés, c'est-à-dire dans l'antichambre, avec toute la société qui était accourue, comme nous l'avons dit, de faire assister le lecteur aux derniers propos tenus par ce cercle de la haute société de Durental. « Monsieur et Madame Bouvier vont venir au château », avait dit Mademoiselle Sophie, « car vous savez la grande nouvelle. Monsieur de Durental épouse cette cousine de Madame Bouvier, cette jeune personne qui a été enlevée. » Adélaïde l'avait bien prévu. Au surplus, quelle que soit la nature des événements qui ont lié Monsieur le Marquis de Durental avec Mademoiselle Gérard, le mariage ratifie et efface tout. Nous verrons comment elle se conduira ici. Elle est jeune.
Ah, dit madame de Sec, elle augmentera le cercle de notre petite société, car lorsque ces messieurs étaient seuls au château, il ne pouvait pas y avoir moyen de fréquenter.
La dit-on jolie ? Demanda madame de Rabon en interrompant.
Une figure de convention, répondit mademoiselle Sophie. Elle a de la grâce. Au surplus, nous la verrons.
Ce fut à ce moment que la cuisinière, effarée et tout épouvantée, accourut en disant que des gens mal intentionnés assiégeaient la maison. Et après une petite délibération, l'on se leva en masse pour courir recevoir monsieur et madame de Durantal, ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent. Aussitôt que ces deux grands personnages furent introduits dans le salon, on les amena devant le feu. Les parties furent quittées et l'on vint se grouper autour d'eux. Mademoiselle Sophie offrit sa place à Annette, qui grelottait de froid, et sur le champ, tous les visages prirent cet air courtisan et obséquieux que les inférieurs à petites idées affectent devant les êtres élevés en dignité ou qui possèdent une grande fortune. Lorsqu'Annette se fut réchauffée et qu'elle promena ses regards sur cette assemblée, aucune des figures qu'elle aperçut ne lui plut. Néanmoins, elle leur adressa un gracieux sourire. Pouvait-elle ne pas sourire ? Et elle dit à mademoiselle Sophie, « Madame, nous avons interrompu le jeu. Je vous en prie, continuez. Je suis bien fâchée du dérangement que je vous cause. Mais le temps horrible qu'il fait et l'erreur du postillon nous servent d'excuse. » Mademoiselle Sophie n'entendait pas. Elle contemplait Argot avec une curiosité extraordinaire.
« Comment ? Le postillon ? Madame, c'est la première fois, dit-elle, que j'ai l'honneur de voir monsieur le marquis de Durantal. »
« Madame, répliqua Jacques de Durantal, cessez de me donner un titre qui ne m'appartient pas. Je ne suis point marquis. » Pour un caractère aussi fier que l'était jadis celui d'Argot, cet aveu aurait pu paraître coûteux, mais il le faisait dans toute la sincérité de son âme et par une profonde humilité chrétienne. Sur une certaine quantité donnée de femmes, il s'y en serait trouvé beaucoup que cet aveu aurait affligé ou choqué. Mais pour Annette, elle aimait trop son mari pour lui-même, et cette phrase ne lui fit aucune impression.
« Mais, continua mademoiselle Sophie préoccupée, c'est le même son de voix. Voyez-vous donc, dit-elle en s'adressant à monsieur de Rabon, comme monsieur de Durantal ressemble à monsieur le président.
Oh, répliqua monsieur de Rabon, ce sont de ces ressemblances qui disparaissent aussitôt que les deux figures sont à côté l'une de l'autre.
Habiterez-vous longtemps notre pays, madame ? Reprit mademoiselle Sophie, se souvenant qu'Annette lui avait parlé.
« Je vous prie de m'excuser, vous me disiez que le postillon... »
Cette ressemblance m'avait étonnée, et j'avoue mon impolitesse. « Avez-vous vu à Valence, madame Bouvier ?»«
Nous n'avons fait qu'y passer, » répondit Annette.
Et à ce moment, elle lança un regard à monsieur de Durantal comme pour lui dire « Oh, sortons d'ici !» et que ces êtres ne s'interposent pas entre notre bonheur, comme jadis aux Italiens cette foule que nous avons abandonnée. » Ce regard fut vu et compris par Argot, mais il le fut aussi par mademoiselle Sophie, qui s'en blessa fortement, d'autant plus qu'Argot demanda sur le champ si l'on ne pouvait pas envoyer quelqu'un au château.
« Mais Jean, » dit mademoiselle Sophie d'un air composé, ne sont guère en état d'y aller par le temps qu'il fait. Mais l'on peut éveiller quelqu'un dans le village. »
« C'est inutile, » dit Argot, « car il me semble que le mur du parc passe auprès de votre jardin, et il y a précisément une porte qui donne sur une allée couverte.
« Attendez, madame, » dit-il à Annette, « dans l'instant vous serez au château. »
Argot s'élança et disparut. Il fit sauter la porte, et malgré le vent et la pluie,
Il vola vers Durental avec la rapidité de l'éclair.
« Madame, dit mademoiselle Sophie, vous êtes sans doute mariée depuis peu ?»«
Madame, nous sommes sortis de l'église avant-hier au matin pour monter en voiture. L'hôtel de monsieur de Durental n'était pas préparé pour me recevoir, et nous comptions passer la plus grande partie de l'année à Durental, de manière que nous avons préféré y célébrer notre mariage, notre famille étant à Valence.
« Il y a bien longtemps, dit mademoiselle Sophie, que je n'ai assisté à des fêtes au château de Durental. »
Assurément, cette phrase signifiait « Invitez-moi !» Mais Annette, qui l'a compris parfaitement bien, jeta un regard scrutateur sur l'appartement et la maîtresse, et d'après cet examen, ne crut pas devoir répondre à cette attaque d'une manière favorable, parce qu'elle ignorait si l'aspect de cette antiquité durantalienne conviendrait à son mari. Alors elle se contenta de sourire en disant « Il y a donc longtemps que Durantal est inhabité ?»«
Il est abandonné depuis la Révolution. Les propriétaires n'avaient plus assez de fortune pour y rester, car il faut la fortune immense de monsieur votre mari.
Il est donc bien riche ?»
dit Annette avec surprise.
« Il faut qu'il le soit, car depuis un mois l'on a dépensé plus de 600 000 francs pour meubler et décorer le château. Tout est venu de Paris. Comment se fait-il, madame, que vous ignoriez ?»
À ce moment, Argot rentra dans le salon en disant « Madame, il y a une voiture à la porte du parc. »
« Madame, dit Annette en se levant, je vous remercie de votre aimable hospitalité. J'étais morte de froid, et il aurait été scandaleux qu'en Provence, une fiancée se fût trouvée gelée. »
Elle salua gracieusement, et toute la compagnie se leva pour l'accompagner. Arrivée dans la cour, Annette, en voyant l'eau et la boue, hésita d'y mettre son joli petit pied enchâssé merveilleusement dans un soulier de satin noir qui brillait comme une escarboucle. Argot la saisit avec avidité dans ses bras, et saluant la compagnie, il l'emporta, comme s'il eût tenu une fleur qu'il craignit de briser.
« C'est une pigrièche, » dit mademoiselle Sophie quand ils furent loin, « et lui, c'est un fort grossier personnage. »
La société regagna le salon de mademoiselle Sophie en commentant cet oracle de la sibylle du lieu. Marguerite voulut prendre la défense de la jeune femme, mais cette contrariété aiguisant la langue de mademoiselle Sophie, elle parla contre les nouveaux mariés avec toute l'aigreur de la vanité blessée. « Inde ire !» Ce fut la source des malheurs.
Chapitre 17. Annette entrait donc, en ce moment, dans ce château que ses pressentiments lui avaient montré comme devant être à elle. Et elle y entrait avec l'homme qui lui était apparu comme un époux de gloire. Elle mit pied à terre sous une voûte brillante, car le grand escalier avait, à chaque marche, deux vases de porcelaine dans lesquels les plus belles fleurs disputaient de parfums et de couleurs. Et, de 5 en 5 marches, un élégant et simple candélabre supportait un globe de verre dépoli, contenant la lumière, ce qui produisait une masse blanchâtre de cette lueur qui charmait tant Annette. La voûte et ses sculptures avaient été nettoyées. Le portique du haut était décoré de 4 magnifiques statues, et les 2 portes des appartements brillaient d'or et de moulures si délicates que la jeune épouse, frappée d'une recherche tant en harmonie avec ses goûts qui avaient été si bien étudiés, se pencha sur le bras de monsieur de Durantal, l'arrêta et lui dit « Voilà le rêve de mon âme. Elle se réveille en voyant son jour, son soleil et la réalité. Oh, que je suis heureuse !» Elle pressa Argot sur son sein et resta quelques minutes, jouissant de cette douce pression comme de la plus grande joie de la terre. Elle aurait voulu arrêter le temps. Ce n'était plus l'heure des pressentiments, des présages, où elle les tournait à son avantage.
Elle ne s'aperçut pas qu'elle avait un frisson causé par la fraîcheur de la voûte et par la présence des fleurs. Enfin, elle ne marchait plus que d'enchantement en enchantement. Son époux l'introduisit dans ses appartements. Rien n'était plus riche, plus élégant. La grâce, la beauté, la recherche des ornements, des draperies, des meubles étaient sans égal. Mais ce qui la flatta le plus, ce fut sa chambre à coucher. Elle était exactement copiée sur sa chambre de Paris, si ce n'est que chaque ornement était exécuté d'une manière bien supérieure. Le cachemire blanc remplaçait la percale, la soie le mérinos, et les marbres, les dorures, l'argent massif y étaient prodigués. « Annette, » dit Argot avec une visible émotion, lorsqu'ils furent parvenus à cette charmante chambre conjugale. « Cette chambre et ces appartements sont les vôtres. Vous y serez toujours maîtresse, quelles que soient vos volontés. Ici, votre mari ne sera jamais que l'amant le plus soumis, le plus tendre, le plus affectueux, l'amant des premiers jours de notre amour. Vos ordres n'auront pas le temps d'arriver sur vos lèvres adorées, et ce sera toujours, comme aujourd'hui, un geste, un sourire, un regard, qui, toujours compris, me diront vos chers désirs, et rien n'empêchera qu'ils soient exécutés. Oui, mon Annette, ajouta-t-il en saisissant sa main et la couvrant de baisers, tu seras mon unique amour, mon trésor de bonheur, l'être sur la tête duquel reposeront toute la vie, toute la félicité d'un malheureux indigne du ciel, de la terre, repoussé par toute la nature, mais qui ose prendre ton sein pour asile. » Elle entendait ces douces et tendres paroles avec un charme inexprimable. Elle rencontrait donc ce qu'elle avait tant souhaité, un être qui conçut l'amour. Quelques larmes de bonheur sillonnèrent ses joues de rose et lui servirent de réponse. Qu'on se figure une vierge, aussi pure qu'Annette, dans une chambre conjugale doucement éclairée et brillante de somptuosité. Annette n'avait jamais eu de pensée qui pût seulement rider le front de cette jeune et pure déesse que l'on nomme pudeur. Enfin, c'était une jeune fille qui ignorait. Or, quel suave tableau! « Cette scène, dit-elle, me fait alarme comme une fête de l'église. Où demeurerez-vous donc ? » demanda-t-elle avec ingénuité après un moment de silence. « Mes appartements, répondit-il, sont là. » Il ouvrit une porte, et Annette parcourut avec un ravissant plaisir les appartements d'Argot qui se trouvaient en parallèle, car on avait consacré aux appartements des mariés toute l'aile du château qui avait sa vue sur la campagne de Valence. « Ah, c'est bien, dit Annette, nous serons toujours ensemble, et je pourrai même vous entendre chez vous. » La pauvre innocente n'y voyait pas d'autre raison, pas d'autre avantage. En se retrouvant sur le portique de l'escalier, Argot lui montra une galerie décorée comme l'escalier, éclairée de même, et Annette arriva aux appartements de réception. Alors, dans un salon immense et magnifique, elle retrouva Monsieur et Madame Gérard, qui venaient d'arriver par l'autre route. Il était très tard, et après mille questions, Madame Gérard, en mère discrète, conduisit sa fille dans la chambre qu'elle venait déjà de nommer la chambre de Paris. Là, Madame Gérard remplit le dernier devoir d'une mère en tâchant de dessiller les yeux de sa fille. Comme les oreilles des hommes n'ont jamais entendu les discours tenus en pareille occurrence, il serait de la plus grande inconvenance de tâcher à les deviner, et nous laisserons chacun se figurer l'étonnement d'Annette à sa guise. Certes, il fallait célébrer, par une fête brillante, cette fête charmante du bel âge, cette fête qui n'en est une que lorsque l'amour, avec son ivresse, sa joie, sa plénitude, assiste à ce don précieux, à ce dernier sacrifice, qui n'en est plus un lorsqu'on aime, et qui devient un supplice pour une foule d'êtres par la manière dont on se marie en Europe. Argot et Annette, privilégiés entre mille mortels, goûtèrent, dans l'empire de l'hymen, les mêmes charmes que deux amants. La chasteté ne cessa pas un moment d'habiter cette chambre céleste, et si la pudeur même pleura, ce ne fut que de plaisir. En effet, il y avait déjà plus d'un mois qu'ils étaient mariés, lorsque Annette, vaincue par tant d'amour, permit que cette chambre virginale quittât son nom. Et dès lors, on jugea à propos de donner à Durantal une fête pour célébrer ce mariage, qui, depuis l'arrivée de monsieur et madame de Durantal, occupe toute la ville de Valence. Ce fut monsieur Gérard qui, en qualité de bureaucrate, rédigea les invitations, et cette petite occupation lui retraça un moment son cher bureau, dont l'absence se faisait sentir pour lui malgré son bonheur. Le jour fut indiqué et les personnes invitées. Cependant, mademoiselle Sophie, le maire de Durantal et sa femme ne furent point priés. Charles Servigné, madame Servigné, monsieur et madame Bouvier le furent, ainsi que le préfet, monsieur Badger, les principales autorités de Valence et la haute société. Personne ne refusa, quoique dans le pays on commençât déjà à se demander quel était le propriétaire de Durantal. Comment et où il avait amassé une si grande fortune, quel rang il occupait, etc. Mais les bruits que l'on semait sur la somptuosité du château, l'envie de voir une jeune personne épousée par amour, l'incertitude même de l'opinion publique sur le maître de cette belle propriété, furent cause de l'empressement de chacun à venir. Adélaïde, sa mère et Charles furent avertis, particulièrement par Annette, que leurs appartements étaient préparés au château. Et dans sa lettre, madame de Durantal les conjura de venir aussi souvent qu'ils le voudraient, les assurant qu'ils seraient toujours les bienvenus. Trois jours avant la fête, Adélaïde et son mari, Charles et sa mère, vinrent en effet au château de Durantal. Mais l'affectueuse tendresse d'Annette et ses gracieuses attentions ne firent qu'augmenter la haine secrète de madame Bouvier, qui comparait toujours sa position avec celle d'Annette, et qui ne pouvait pas penser que sa cousine oubliât la manière dont elle avait été reçue à son premier voyage. Alors, plus Annette témoignait d'amitié à sa cousine, et plus cette dernière l'accusait de fausseté, en croyant qu'elle agissait à contre-cœur. Pour Charles, en voyant celle qu'il devait épouser, celle qu'il aimait encore, briller ainsi au sein de l'opulence et s'y trouver comme dans son élément naturel, il sentait redoubler sa rage, et souvent cette pensée se trouvait dans son cœur. « Oh, si je pouvais détruire leur bonheur et descendre ici avec tout l'appareil de la justice, comme cela m'est arrivé déjà à tort !» Adélaïde et son mari furent ce jour-là, avec leur mère, faire une visite à mademoiselle Sophie, à laquelle ils devaient encore des sommes considérables. Là, Adélaïde parla un peu à cœur ouvert sur sa cousine, mais en y mettant toutefois des ménagements. « Nous nous verrons sans doute au bal, » dit-elle à mademoiselle Sophie. « Moi, pas du tout, » répondit-elle. « Je ne suis pas invitée. »« Ni moi, » dit aussi madame de Sec. « Il me semble cependant que monsieur et madame de Durantal auraient bien pu inviter les autorités du pays. Ce n'est pas pour la fête. Qu'est-ce que nous fait à nous de voir leur salon, leurs meubles, leurs domestiques et eux-mêmes ? Mais c'est humiliant. Et comme disait ce pauvre curé, il ne faut pas que la pelle se moque du fourgon. Satis est, reprit monsieur de Sec. Assez, assez, ma bonne amie. Mais, dit monsieur de Rabon à madame de Servigné, connaissez-vous ce monsieur de Durantal, le gendre de votre nièce ? Qu'est-il donc ? Tout le monde à Valence demande cela. Il nous a dit ici l'autre jour qu'il n'était pas marquis. Le préfet prétend qu'il est américain. Il y a une incertitude. J'ignore, dit madame Servigné, qui, heureuse enfin, se voyait interrogée et prenait la parole. Ce que je sais, c'est qu'il a une fortune colossale.
Il nous a fait acheter beaucoup d'étoffes par un grand homme sec qui est son ami, et il a payé comptant. Cette affaire-là nous a fait un bien étonnant, car elle nous mettra bientôt à même, mademoiselle, de vous apporter une bonne somme. Mais pour vous dire ce qu'est monsieur de Durental, je l'ignore complètement. Il est ami du préfet, car le préfet vient.
Ah ! Il vient ?
Dit monsieur de Sec. Mais c'est dommage que je ne m'y trouve pas. Si encore monsieur de Durental venait à l'église, on pourrait encore le saluer, le voir. Mais non. Il vit renfermé, se promène en voiture ou dans son parc. Il a fait restaurer la chapelle du château et on y dit la messe, ce qui n'arrange pas notre curé. S'il fait des aumônes aux pauvres, c'est son grand sec d'intendant qui les remet. Et il n'ôte même pas sa pipe de sa bouche pour vous parler. Quo usque tandem patient mini. Resterons-nous sans rien savoir bien longtemps? Ils ne sont même pas venus me revoir, me remercier, dit mademoiselle Sophie.
Oh, Annette n'a pas de tact, dit Adélaïde.
Je m'y suis présentée, reprit mademoiselle Sophie, et elle ne m'a pas reçue.
Elle ne vous a pas reçue?
Répéta Adélaïde avec un profond étonnement.
« Et pourquoi donc, madame, ne vous a-t-elle pas reçue ?»«
Madame n'était pas visible, » répondit avec aigreur mademoiselle Sophie. « Voyez-vous cela, madame n'était pas visible, » répéta encore Adélaïde avec un air moqueur. « Elle va prendre des tons de grande dame, une petite ouvrière en dentelle. »«
Ah, elle a fait de la dentelle ?»
s'écria mademoiselle Sophie. Il ne manquerait plus que son mari ait vendu du fil. Il a assez l'air d'un gros négociant, et il aura acheté la terre de Durental comme une savonnette à vilain. Oh, si nous pouvions savoir son véritable nom.
Dieu sait si la bonne volonté me manque, dit madame de Sec.
Tu sais, mon ami, comme je découvre les secrets. Ce que femme veut, Dieu le veut, disait le pauvre.
Nous le saurons quand nous voudrons,
dit monsieur de Sec en interrompant l'inévitable citation de sa femme. Car je puis demain le lui aller demander.
Et que ne le faites-vous ?
S'écrièrent à la fois mademoiselle Sophie, monsieur de Rabon, Marguerite et Adélaïde.
Ah, diable ! Amica veritas et magis amicus plato.
Ce qui veut dire qu'il est l'ami du préfet et que, lorsqu'on aime sa commune, on se garde de heurter les notabilités sociales. C'est ce que Cicéron explique dans le chapitre 7. Vous le connaissez, monsieur de Rabon, des Républica, du budget.
Mais, mon ami, reprit Marguerite, quand on a une fortune indépendante, on n'a besoin de personne, et l'on peut,
dit l'ex-juge de paix, être destitué. L'on voit, d'après cette conversation, que la curiosité du cercle de mademoiselle Sophie était fortement excitée, que le besoin de connaître monsieur de Durental formait un fond d'entretien qui ne devait tarir que lorsqu'on aurait découvert la vérité, que mademoiselle Sophie était piquée au dernier point de n'être pas invitée au bal, et que cet amour-propre blessé lui donnait l'envie de nuire au propriétaire du château. De Sec était partagé entre l'envie de se glisser au château et son orgueil offensé. Quant aux autres membres de la société, ils suivaient l'impulsion donnée par mademoiselle Sophie, et le curé lui-même n'était pas content de ce qu'un autre ecclésiastique que lui eût été choisi pour être l'aumônier du château. Qu'on pense à tout ce qu'il supposait d'un seigneur que l'on ne pouvait pas voir. Ce bal, dont il était tant question dans la contrée, se donna, et l'élite de toute la société de Valence s'y trouva. Le préfet, reconnaissant envers Argot, malgré le haut rang qu'il occupait, lui prodigua ces marques d'affection qui prouvent une grande intimité entre deux hommes, et il fêta la jeune mariée comme si Annette eût été sa fille. Alors, les autres personnages, suivant l'impulsion que leur donnait la conduite du premier magistrat du département, s'empressèrent autour de cette famille et ne négligèrent rien pour se montrer des amis réels.
On parcourut du rental avec d'autant plus d'admiration qu'elle était véritable, et tous les invités restèrent une journée entière. Vernier avait pourvu à tout, et cet ami sincère, malgré la rudesse de ses manières, fut l'âme de cette fête. Argot et Annette n'eurent qu'à en faire les honneurs. Madame de Durental semblait être prédestinée à jouer un tel rôle, et elle s'attira l'éloge vrai de tous ceux qui la virent. Affable avec tout le monde, prévenante, gracieuse, sans prétention auprès des femmes, leur donnant des louanges délicates et paraissant s'oublier auprès d'elles. Spirituelle de cet esprit de bonne compagnie auprès des hommes, elle imprima à cette journée et à la fête un cachet de grandeur, de bon ton et d'amabilité sans gêne, qui fit regarder cette jeune femme comme une des plus précieuses conquêtes que put faire la ville de Valence. Chacun s'en fit l'un à l'autre l'aveu, et tous désirèrent de lui plaire. Elle eut même le soin de se faire pardonner l'extrême magnificence de son château auprès des personnes chez lesquelles ce spectacle magique pouvait exciter l'envie ou la jalousie. Et lorsque l'on parla de cette noce dans Valence, ce ne fut de tous côtés que discours flatteurs pour Annette et son mari. À cette fête se trouva le président du tribunal de Valence, qui le matin avait vu Mademoiselle Sophie. Comme elle, il fut frappé de sa ressemblance avec Argot. Charles et Adélaïde se trouvèrent alors les seuls dont les cœurs ne fussent pas à l'unisson. Charles, cependant, eut tous les dehors de l'amitié la plus vive. Mais ce luxe l'écrasait. Il ne respirait plus à l'aise dans ses appartements somptueux. Et lorsqu'il vit paraître Annette, décorée de toute l'élégance d'une toilette fraîche et simple qui la rendait mille fois plus belle, il sentit dans son âme l'amour se réveiller dans toute sa violence. Et en apercevant dans les traits d'Annette ce contentement radieux que produit le bonheur, il tressaillit et sentit une haine horrible s'élever dans son cœur pour l'être qui lui avait arraché l'amour d'une créature dont il savait apprécier le prix. Il s'en alla de Durental en emportant une aversion plus forte pour son cousin, et il la déguisa assez à monsieur et madame Gérard pour que ces deux êtres de bonté le crussent l'ami de leur famille. Bientôt, Durental devint solitaire, car monsieur et madame Gérard retournèrent à Paris pour mettre ordre à leurs affaires, afin de pouvoir revenir promptement et rester désormais avec leur fille, car monsieur Gérard allait donner sa démission de caissier et réaliser sa petite fortune, de manière à pouvoir vivre avec son gendre. Le bonhomme avait trouvé le moyen d'établir une administration entière dont il s'était créé le chef. Cette administration était celle de la fortune de son gendre, et il s'était même fait arranger un bureau à Durental. Il ne resta donc plus au château que les deux mariés et Vernier. Aussitôt qu'Annette se fut habituée au changement que son nouvel état et l'habitation de Durental apportèrent dans sa manière de vivre, elle se fit un autre thème sur cette nouvelle position sociale, et son mari reconnut en elle un de ces êtres supérieurs que le ciel envoie trop rarement sur la terre. En effet, elle commença une vie de bienfaisance et de bonté expansive qui fit goûter à Argot des plaisirs dont le malheureux ne s'était pas encore douté. Enfin, Vernier lui-même fut attaché au char de la bienfaisante Annette, et il la suivit en grondant et fumant toujours sa pipe, car Annette ne put jamais gagner cette réforme sur l'esprit de l'indompté lieutenant. Ces trois êtres parcoururent les environs et soulagèrent toutes les infortunes. Annette tenait un registre exact des familles malheureuses et obviait à tous leurs maux. Elle avait le soin de tout faire faire à son mari, comme pour grossir son trésor de bonnes œuvres dans le ciel, et racheter ses crimes par l'exercice de toutes les vertus chrétiennes. Si l'on veut connaître comment se passait leur temps, il ne faut que montrer l'intérieur de la chambre d'Annette. La voyez-vous assise dans l'embrasure d'une croisée? Elle travaille avec ardeur à des chemises de la toile la plus grossière,
et elle ne lève les yeux que pour les reporter sur Argot. Ce dernier est entouré de plans et de cartes. Il s'occupe, avec Vernier, de la construction d'un hôpital champêtre. Vernier est là, les bras croisés, il se promène de long en large, il regarde ce tableau céleste et il jure en lui-même, car il n'ose plus jurer tout haut. Il n'a juré qu'une fois, et pour tout l'or de l'Amérique, il ne voudrait pas revoir l'expression des regards qu'Annette lui lança douloureusement. Dire qu'une petite femme, pas plus haute que rien, s'écria-t-il, a réussi à me faire tenir 2 heures tous les dimanches dans une chapelle contre ma volonté? Annette se mit à sourire en regardant son mari. Continue, dit monsieur de Durantal. Tu parles d'or? Oui, mais je jure bien par la quille de la Daphnie qu'elle ne me fera rien faire de plus. Et c'est moi qui ai fait restaurer cette chapelle où je vais. Je n'y comptais guère. Et c'est encore moi qui ai fait clouer tous ces tapis sur lesquels on ne peut plus cracher ni fumer. Voilà de beaux chefs-d'œuvre. Et le pis, c'est de voir mon ancien s'amuser à tracer des hôpitaux, des greniers à malades, courir à la chasse des pauvres comme si c'était des ortolans, ne plus fumer. Je l'avais bien dit que tout tournerait comme cela. Si je ne me tiens pas bien boutonné, il finirait par m'encapuchonner. Il me marierait. Et je n'aurai plus l'envie de vivre en brave et honnête. Brigand, n'est-ce pas? Dit Argot en l'interrompant. Donner des horions et en recevoir, perdre ton âme. Oh oui, reprit le lieutenant, je finirai par vous quitter, et j'irai m'engager dans quelque régiment de pousse-cailloux pour me faire brûler la cervelle avec quelques vieilles moustaches. J'aime la fumée du canon. Oh! « Nous quitter ?» s'écria Annette en sautant et jetant ses toiles. « Quitter vos amis? Votre petite prêcheuse qui veut votre salut? Quitter Durantal? Ne plus sentir ces douces larmes couler quand je vous mène chez un malheureux? Oh, vous ne ferez pas une chose si cruelle. Eh bien, je ne vous tourmenterai plus pour vous faire agenouiller au lever Dieu. Vous fumerez dans les appartements. »« Même dans le vôtre ?» dit-il en la regardant avec curiosité. Ici, elle jeta un regard plaisamment douloureux sur cette chambre étincelante de blancheur. Elle prit Vernier par le bras, et, le conduisant à un rideau de mousseline des Indes, elle lui dit « Est-ce que vous auriez le courage d'en fumer cela ?»«
Oui, »
répliqua-t-il. « Eh bien, vous l'en fumerez s'il n'y a que cela qui puisse vous faire rester avec vos amis. »
Oh !
S'écria le lieutenant les larmes aux yeux. « Y a-t-il 2 femmes comme vous dans le monde? Que le diable remporte les fusils, les canons, les haches, les sabres, les vaisseaux, même les fins sloops. Vive les anges comme vous !»«
Eh bien, » dit Annette en lui souriant, « aimez-vous un peu la religion? Convertissez-vous! Soyez chrétien !»«
Oui, sois chrétien !» ajouta Argot de sa voix forte.
Oh, pour cela, ne m'en parle jamais. Si vous voulez que je sois tranquille ici-bas, laissez-moi au moins la vie future, puisque vous dites qu'il y en a une, pour me battre et enrégimenter l'enfer. Tu Dieu, voyez-vous les démons aller au pas de charge, virer à droite, et s'il y a des chevaux damnés, nous aurons de la cavalerie.
Oh, taisez-vous, taisez-vous, dit Annette. « Vous me faites de la peine. »«
Veux-tu te taire ?» s'écria Argot d'un air impérieux.
Mais radoucissant sur le champ sa voix, il fut à son ami, lui prit la main et lui dit avec l'accent de l'amitié « Tais-toi. »«
J'ai tort. Adieu. Je m'exile pour 3 jours. »
Il sortit. C'était ainsi que leur jour se passait au sein de l'amitié, de la bienfaisance et de l'amour. Annette prodiguait tous les trésors de sa belle âme pour charmer la vie d'Argot. Toute la matinée était donnée au doux plaisir de l'intimité. Ensuite, on courait chez les malheureux, les aider de conseils autant que d'argent. L'on travaillait avec courage aux layettes des accouchés, aux chemises des pauvres vignerons ruinés. L'on entremêlait ses travaux de chant, de prières et de musique. Et chaque journée était trouvée trop courte.
mais jamais ils ne purent dire, comme Titus, qu'il y en eut de perdu, ni pour l'amour, ni pour la bienfaisance, ni pour le ciel. Aussi leur vie devint-elle pure comme l'azur du ciel. »